Éco d'écolo, l'émission étudiante qui met la planète au micro.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Alliance Plus pour ce nouvel épisode de l'émission Éco d'écolo. Je m'appelle Nicolas, je suis avec Solène, Antoine et Zoé. Nous sommes étudiants et étudiantes en master gestion de l'environnement à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du lien entre l'écologie et d'autres formes de mobilisation. Quel est le rapport entre les Gilets jaunes, le mouvement MeToo ou encore le mouvement Black Lives Matter avec l'écologie? A priori, ces mouvements n'ont rien à voir entre eux et pourtant. Avez-vous déjà entendu parler de l'intersectionnalité des luttes ou bien de la convergence des luttes? Ce concept a été théorisé pour la première fois par une juriste américaine qui a publié deux articles en 1989 et 91 pour alerter sur les conditions des femmes noires ouvrières aux États-Unis, qui se retrouvent à l'intersection de discriminations racistes, sexistes, en plus de leurs conditions sociales défavorisées. Ce concept a donc intéressé les sciences sociales et humaines pour étudier les interactions entre différents rapports de domination. Mais alors, quel est le lien avec les enjeux environnementaux? Un rapport spécial sur les événements extrêmes du GIEC aborde pour la première fois en 2012 l'intersectionnalité comme outil d'analyse de la vulnérabilité et de l'exposition aux risques climatiques. Pour rappel, le GIEC est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est composé de près de 2000 scientifiques internationaux qui réalisent des rapports synthétiques à partir de toutes les publications scientifiques sur les causes et les conséquences du changement climatique. Dans leurs travaux, ils montrent que le risque climatique ne diffère pas seulement en fonction des impacts de leur localisation ou de leur nature, mais aussi, voire surtout, en fonction des caractéristiques des populations touchées, comme le genre, l'ethnie ou la classe sociale. Aussi, en France, le Haut Conseil pour le climat précise dans son rapport de 2020 qu'une approche intersectionnelle pour les politiques d'adaptation et d'atténuation au changement climatique est indispensable pour avoir une transition juste. Pour nous aider à mieux comprendre ce concept, Antoine, Zoé et Solène vont nous présenter trois exemples concrets qui croisent écologie, lutte des classes, féminisme et antiracisme. Et on commence tout de suite avec Antoine qui nous emmène à Nîmes pour nous parler de Réanime.
Merci Nicolas. Alors Réanime, c'est ce qu'on appelle une ressourcerie. Et pour nous en parler, j'ai pu interviewer Anne-Laure, responsable de la structure. On l'écoute pour nous expliquer ce qu'est Réanime, qui emploie aujourd'hui 11 salariés et une soixantaine de bénévoles.
C'est une ressourcerie généraliste, c'est-à-dire que les gens viennent déposer ce qu'ils n'utilisent plus. Et nous, on se charge de faire le tri et de les réorienter en fonction de l'état. Ça veut dire que ce qui est en parfait état repart à la vente. Et puis, ce qui est en état moyen, on voit ce qu'on peut en faire en fonction des filières de don, des filières de réutilisation et de réemploi pour détourner la matière. Et quand c'est vraiment plus possible, on envoie le recyclage spécialisé. Par jour d'ouverture, on reçoit 1,3 tonnes d'affaires que les gens déposent.
Et alors, le réemploi, c'est écologique?
Et oui, tout à fait. C'est même assez primordial. Aujourd'hui, on est dans un système linéaire. On extrait la matière, on la transforme, on achète et on jette, sans vraiment se soucier de ce qu'il se passe après. Il faut bien prendre conscience que chaque étape engendre des pollutions. Prenons le cas d'un grille-pain, par exemple. Selon une étude, un quart des émissions des gaz à effet de serre des petits appareils électroménagers provient de leur fabrication. Eh bien, le réemploi, c'est se dire, avec du bon sens finalement, que quelque chose dont je ne veux plus peut servir à quelqu'un d'autre. J'ai demandé à Anne-Laure de nous expliquer pourquoi c'est pertinent d'un point de vue écologique. Écoutons-la.
On sauve 225 tonnes par an. Et c'est notre participation à la transition écologique, c'est-à-dire donner l'habitude aux citoyens d'arrêter de jeter des choses qui sont encore en bon état et de lui donner aussi l'habitude de commencer par regarder ce qui existe déjà avant d'aller consommer du neuf qui aura été fabriqué avec de la matière qu'il aura fallu puiser encore et encore. Voilà, c'est cette réutilisation ou cette réemployabilité qu'on met au profit de la transition écologique et de la protection de l'environnement.
En tout cas, c'est un beau projet. Et j'imagine que ce n'est pas seulement orienté sur la transition écologique.
Oui, Réanime, comme me l'a expliqué Anne-Laure, c'est en fait bien plus qu'une simple initiative écologique. C'est aussi un lieu de solidarité, un lieu d'échange. Écoutons-la encore.
On est en lien et en réseau avec une cinquantaine d'associations partenaires pour faire des dons de matière. C'est le premier côté solidaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler en réseau. Et j'insiste sur le fait que nos bénévoles sont incroyables pour ça. Et puis ensuite, dans ce qui est dans la boutique et ce qu'on revend, on fait vraiment très très attention d'être accessible à tous. Parce que c'est important pour nous d'avoir une mixité de population et aussi de se dire que le beau ou alors les choses de qualité vont pouvoir être utilisées par tout le monde et achetées par tout le monde. Dans nos bénévoles, il y en a un certain nombre qui sont mineurs non accompagnés et ils viennent nous aider parce que c'est un endroit où ils vont pouvoir avoir une utilité sociale, rencontrer d'autres gens, parler le français, travailler en équipe. Donc, et ça, c'est important pour nous.
Les ressourceries sont en effet un exemple très frappant de ce que Nicolas, tu appelais au début la convergence des luttes. On va lutter à la fois contre les déchets et la pollution qu'ils engendrent, mais aussi pour une société plus solidaire. Le tout avec un modèle économique qui tient la route. En 2022, il y a environ 300 ressourceries qui emploient 7000 salariés et 4000 bénévoles pour un total de 60 000 tonnes de déchets détournés selon le réseau international des ressourceries et recycleries. Et ça ne fait qu'augmenter.
Donc des chiffres qui montrent que ces initiatives citoyennes fonctionnent et qui méritent d'être encore plus généralisées. Mais je crois, Antoine, que tu voudrais nous mettre en garde contre le fait de ne pas faire porter toute la responsabilité sur nos choix individuels.
Exactement. Les ressourceries, c'est super, mais soyons honnêtes, même si on achetait toutes et tous de la seconde main, ça ne suffirait pas à résoudre la crise environnementale. Car le fond du problème, il est en réalité structurel. Pendant que les classes populaires, elles peuvent trier leurs déchets et réparer leurs objets, les plus riches et les multinationales continuent de polluer massivement. Si on prend l'exemple du changement climatique, il y a un chiffre qui le souligne bien, qui provient d'un rapport qui est paru en 2023 de l'ONG Oxfam. Imaginons que toi, Nicolas, tu fasses partie des 1% les plus riches de France, et moi, des 50% les plus pauvres. L'étude, elle montre qu'en une seule année, tu émettrais autant de CO2 que moi je le ferais en 10 ans. Et si les inégalités en France sont déjà criantes, elles le sont encore plus à l'échelle mondiale. Et c'est doublement injuste, car le GIEC que tu mentionnais tout à l'heure montre bien que les pays les plus pauvres sont ceux qui subissent le plus les conséquences du changement climatique. Même si la France, elle représente moins d'1% de la population mondiale, nous sommes quand même le 11e pollueur historique mondial.
Mais alors, quelles seraient les solutions ?
Eh bien, quand on prend des mesures pour lutter contre le changement climatique ou contre la perte de la biodiversité, c'est très important de réfléchir à la question de l'équité et de la responsabilité. Une taxe sur le carburant des voitures pour financer la transition écologique qui toucherait tout le monde sans distinction serait perçue comme très injuste.
Oui, c'est ce qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes, par exemple.
Tout à fait. Et à contrario, une mesure de taxation des jets privés ou des SUV serait beaucoup plus acceptable et aussi plus juste dans une certaine mesure.
Merci Antoine pour ta présentation et merci à Anne-Laure de Réanime d'avoir accepté notre interview. Alors au niveau actualité, Réanime vient d'ouvrir une matériothèque, la Batmat, à Nîmes, en partenariat avec la ressourcerie du Vigan. En ce qui concerne la ressourcerie de Nîmes, en elle-même, elle est ouverte du mercredi au vendredi de 10h à 18h, mais uniquement jusqu'à 13h pour les dons, au 18 rue Platanet à Nîmes. Grâce à l'exemple de la ressourcerie, nous comprenons alors que la crise écologique met en exergue les inégalités sociales. Mais celles-ci sont souvent en lien avec des discriminations de genre, et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Zoé, qui va nous parler d'écoféminisme.
Oui, mais avant ça, j'aimerais d'abord vous parler d'un exemple inspirant de lutte pour l'environnement et l'égalité des genres. Le mouvement de la ceinture verte, initié par Wangari Maathai. Dans les années 70, au Kenya, cette femme biologiste de formation s'inquiète de la déforestation qui menace les écosystèmes locaux. Alors qu'elle travaille pour le Conseil national des femmes du Kenya, elle commence à mobiliser les femmes des zones rurales pour qu'elles plantent des arbres. Cette initiative est partie d'une petite idée et s'est transformée en un mouvement important, le mouvement de la ceinture verte. À travers ce mouvement, les femmes apprennent à cultiver et à planter intelligemment des arbres et à en prendre soin à long terme. Il y a plus de 20 millions d'arbres qui ont été plantés au Kenya et 6000 pépinières qui ont vu le jour depuis les années 70. En retour de leur implication, elles reçoivent une rémunération. Cet argent a été utilisé par ces femmes pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Mais pas seulement, elles ont aussi souhaité réinvestir dans l'éducation des enfants du pays pour sensibiliser les générations futures. Un demi-million d'écoliers ont été ainsi formés aux valeurs du développement durable.
Mais quel est le rapport entre le féminisme et l'environnement ?
En fait, il y a un truc super intéressant quand on regarde comment les stéréotypes de genre sont liés à notre rapport à la nature. Depuis tout petit, on nous apprend que les filles doivent être douces, prendre soin des choses, être en harmonie avec la nature, alors que les garçons, on leur dit plutôt d'être forts, de dominer, de conquérir, que ce soit la nature ou autre chose d'ailleurs. En 2018, une étude américaine indiquait que les comportements écolos, comme fabriquer son propre liquide vaisselle, étaient perçus comme féminins. Cette étude de Vincent Luches, L'écologie, un truc de bonne femme, nous explique que si les femmes semblent plus sensibles que les hommes aux problématiques environnementales, ce n'est pas parce qu'elles sont nées avec un gène vert. Ce n'est pas une caractéristique biologique innée et spécifique aux femmes, mais cela relève de la socialisation des enfants. En somme, elle n'est pas liée au sexe, mais au genre. Pourtant, d'après Mediater, seulement 7% de femmes occupent un poste ministériel en lien avec l'environnement en 2014.
Donc les femmes seraient plus enclines à protéger l'environnement que les hommes à cause d'une socialisation genrée. Encore une charge qui pèse sur les femmes.
Eh oui. D'après Oxfam, dans leur article « Les principes de l'écoféminisme », la violence qui s'exerce sur les femmes, exploitation économique, violence sexiste, comme celle qui est opérée sur le vivant, exploitation des ressources, destruction des terres, etc., est une seule et même oppression. La façon dont on exploite la nature fait écho à la façon dont la société a tendance à traiter les femmes. C'est le même principe. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui veut dominer, que ce soit une espèce qui se croit supérieure aux autres ou un genre qui se pense au-dessus de l'autre. Cette exploitation de la nature et du genre féminin est intimement liée. Les femmes représentent 60% de la population mondiale vivant sous le seuil de pauvreté en 2021. Cette pauvreté est expliquée par plusieurs facteurs. Les femmes gagnent moins, investissent moins, possèdent moins et sont dans des secteurs d'activité qui sont moins valorisés financièrement. Le problème, c'est que ça n'est pas qu'une question d'argent. D'après ce même rapport d'Oxfam, les personnes les plus pauvres souffrent plus des catastrophes naturelles. Mediater nous dit que les décès chez les femmes sont jusqu'à 14 fois plus élevés en cas de catastrophe naturelle. L'ONU nous rappelait récemment que durant le tsunami de 2004 en Asie, considéré comme l'un des plus dévastateurs, 80% des victimes en Indonésie étaient des femmes.
Et j'imagine que ces impacts disproportionnés du changement climatique sur les femmes ont fait naître l'écoféminisme.
En effet, un mouvement de pensée a émergé dans les années 70. Dans son ouvrage « Le féminisme ou la mort », la militante et écrivaine Françoise Daubonne mentionne pour la première fois en France la notion d'écoféminisme, issue de la fusion des termes écologie et féministe. Ce mouvement repose sur un parallèle entre l'exploitation de la nature et celle des femmes par les hommes, propre au système patriarcal. Ainsi, d'après Oxfam, l'exploitation de l'environnement par les humaines et l'oppression des femmes peuvent se combattre ensemble.
Alors comment faire, Zoé ?
À court terme, il est crucial de permettre aux femmes de prendre une place active dans les décisions politiques et de les inciter à faire porter leur voix. En 1992, la troisième conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement adopte un texte dont voici le principe numéro 20. Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable. Il est aussi important que les mouvements, à quelque échelle qu'elles soient, de mobilisation féminisme et écologique, perdurent et se multiplient, comme celui de la ceinture verte au Kenya. À long terme, il est essentiel de lutter contre les stéréotypes de genre, tout en éduquant les jeunes à notre relation avec la nature. L'objectif est de faire en sorte que la question de l'environnement ne soit plus perçue comme une affaire de femme ou d'homme, mais comme une responsabilité partagée entre toutes et tous.
Merci Zoé. Grâce à tes explications, nous comprenons mieux comment la domination de la nature est intimement liée à la domination des femmes. Mais malheureusement, cette domination ne s'arrête pas aux femmes, mais elle se porte aussi sur des personnes racisées. Et pour s'en apercevoir, il suffit de regarder en France, notamment aux Antilles, et c'est Solène qui nous y emmène.
Alors plus exactement, j'aimerais vous amener en Martinique et en Guadeloupe, où un pesticide a été utilisé pendant de trop nombreuses années, le chlordécone. Ce pesticide, créé aux États-Unis et utilisé dans les bananeraies entre 1972 et 1993, est maintenant considéré comme une substance toxique pour l'homme et un perturbateur endocrinien. Une étude a démontré que le chlordécone a des impacts néfastes sur le système nerveux, la reproduction, le système hormonal et le fonctionnement de certains organes, comme le foie, le rein, le cœur. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a aussi démontré une relation causale probable entre le chlordécone et le cancer de la prostate. D'après cette agence, 95% de la population guadeloupéenne et 92% de la population martiniquaise ont été contaminés par ce pesticide. Ce produit toxique a donc contaminé les sols, les rivières, les poissons, la volaille et les humains. Son impact sur la santé humaine avait été démontré en 1977, après que des ouvriers d'une usine de chlordécone aux États-Unis aient développé des troubles neurologiques et testiculaires. Son utilisation et sa production ont été bannies aux États-Unis à ce moment-là. Pourtant, la France continue d'en produire sur son territoire et à l'utiliser dans les bananeraies jusqu'en 1993.
Soit 16 ans après les États-Unis. Et qu'est-ce qui explique un tel retard en France, Solène ?
Pour comprendre cela, il faut prendre en compte l'histoire coloniale des Antilles. L'implantation de monocultures, destinées à l'exportation pour la France et l'Europe, arrive avec les colons en 1635, d'abord avec le sucre, puis ensuite la banane. Les propriétaires des exploitations de bananes sont majoritairement ce qu'on appelle des béquets, les descendants des premiers colons. En 1980, le brevet du chlordécone est racheté par Yves Ayotte, béquet et président de la société Lagarrigue. Et le pesticide est produit sous un autre nom, le curlone, et il est autorisé. Des dérogations sont obtenues par le ministère de l'Agriculture pour continuer l'usage de ce pesticide aux Antilles jusqu'en 1993, dû à de fortes pressions de lobbies agricoles, malgré une interdiction en France hexagonale en 1990. Le cas de ce pesticide est un exemple de racisme environnemental. Le fait que des Martiniquais, Martiniquaises et Guadeloupéens, Guadeloupéennes montrent des taux de cancer élevés, des contaminations au chlordécone, des troubles du développement chez l'enfant, au profit de descendants de colons, est preuve d'un racisme systémique en place encore aujourd'hui et qui a des conséquences importantes et parfois mortelles sur des populations racisées. Encore aujourd'hui, l'État français a une responsabilité de réparation envers la contamination de la Guadeloupe et de la Martinique, causée par cet échec de gouvernance, mais aussi une responsabilité de questionner la manière dont on aborde les questions d'écologie dans un système néocolonial et capitaliste.
Mais pourquoi dit-on racisme environnemental ?
Rappelons d'abord que le racisme est la discrimination d'une personne fondée sur son origine ou son appartenance ethnique ou raciale. Le racisme environnemental traduit le fait que ce sont principalement les populations précarisées et racisées qui subissent les conséquences de la pollution et du dérèglement climatique. Ce phénomène a été mis en avant d'abord aux États-Unis, où l'on a remarqué dans les années 1980 que les populations racisées étaient plus exposées aux déchets toxiques. En effet, les industries polluantes plaçaient des décharges majoritairement dans des quartiers avec une plus grande proportion d'habitants racisés. Cela s'explique par le fait que les populations blanches avaient plus de moyens et de pouvoir pour dénoncer et résister contre l'implantation de sites polluants près de leurs habitations. Le terme racisme environnemental apparaît plus lentement en France, mais il est tout de même bien présent. Que ce soit en Martinique et Guadeloupe, comme nous l'avons vu, mais aussi dans les quartiers prioritaires, qui sont plus exposés à la pollution de l'air et des îlots de chaleur. Ou encore dans le foie des emplacements pour les aires d'accueil des gens du voyage, dont une majorité sont dans des zones à nuisance environnementale, et 51% de ces aires ayant une pollution visible, d'après l'inventaire de William Acker, publié en 2021.
Donc on constate que le mouvement écologique doit être aussi décolonial et antiraciste.
Effectivement, Nicolas. Et il est important de prendre en compte l'ensemble du système qui a créé la crise environnementale que l'on vit aujourd'hui, mais qui est aussi sociale. Il faut comprendre qu'on ne peut pas seulement avancer vers un monde plus écologique sans prendre en compte les inégalités sociales ancrées à travers notre histoire coloniale, qui exacerbent les impacts environnementaux sur les populations discriminées. Des initiatives qui lient ces domaines existent. Je pense notamment à Banlieue Climat, une association qui insuffle le mouvement de la transition écologique dans les quartiers populaires, afin que, et je cite, « les solutions aux problématiques liées au climat, l'environnement, l'écologie soient portées par celles et ceux qui sont frappés par ces inégalités ». On retrouve aussi des collectifs qui luttent contre le chlordécone aux Antilles, comme Stop Chlordécone Objectif Zéro Poison, ou encore pour un meilleur accueil des gens du voyage en France, comme le collectif Femmes et Lèmes Ronchin, près de la métropole de Lille.
Merci beaucoup Solène pour ce dernier exemple d'intersectionnalité. À travers ces exemples, nous comprenons que la crise que nous traversons n'est pas seulement écologique, mais elle est aussi sociétale. Cette double crise nous invite à repenser à la fois notre rapport à la nature, mais aussi aux autres êtres humains. Il nous semble fondamental de comprendre ces liens si nous voulons faire évoluer les comportements pour préserver l'environnement, mais aussi pour lutter contre les inégalités sociales et contre toute forme de discrimination. Notre émission touche à sa fin, merci de nous avoir écoutés. C'était Écho d'Écolo, la radio qui met la planète au micro. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous pouvez le retrouver en podcast sur le site internet de Radio Alliance Plus. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode, et on vous laisse avec Fire on the Mountain de Assa. There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, and what do I see? I see an army of a soldier man marching across the street. Yeah. What did it say to make you so blind to your conscience and reason? Could it be love for your country or for the gun you use in killing? So there is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is around. Wishing we had put out the fire.